Écrit l'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Claudine Châtelain.
Bonjour et merci de m'accueillir dans l'émission Écrit d'ici.
Alors justement, Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Claudine Châtelain pour son essai romancé, le récit d'une quête psycho-spirituelle qui s'intitule « Au bord de l'océan, j'ai dessiné et j'ai rêvé », paru en juin 2023 aux éditions BOD. Alors, dans l'émission Écrit d'ici, nous avons une question fétiche pour introduire nos échanges. C'est pourquoi l'écriture ? Et puis, quelle place cette écriture prend dans ta vie ?
Alors, pourquoi l'écriture ? Pendant longtemps, on me disait, mais tu as des qualités, tu peux écrire, pourquoi tu ne le fais pas ? J'essayais, ça ne marchait pas. Et puis, pendant le confinement, j'ai eu un rêve. Je suis spécialiste de l'analyse des rêves. J'ai eu un rêve. Il faut dire que j'avais arrêté ma pratique, j'étais retraitée. Ça me manquait peut-être un petit peu. J'étais analyste de rêves, donc ça me manquait certainement de recevoir des gens. Et pendant le confinement, une nuit, j'ai eu un rêve, et dans ce rêve, une voix m'a dit « Tu vas écrire un livre sur les dessins projectifs et sur les rêves. » Et alors là, ça m'a boostée complètement. J'y suis allée, je l'ai fait, j'ai continué. J'avais parfois des doutes, et à chaque fois, j'avais des rêves qui me disaient « Non, non, tu es sur la bonne voie, continue. » Ensuite, ça a été le moment de choisir s'il fallait que j'édite ou pas, si je publie ou pas, et là aussi, des rêves m'ont aidée. Maintenant, je suis lancée complètement dans l'écriture et je prépare d'ailleurs, je vais bientôt avoir un deuxième livre qui va être publié. Donc ça y est, c'est lancé, je crois que je ne m'arrêterai plus maintenant.
D'accord, donc une place incontournable de l'écriture dans ta vie.
Oui, maintenant vraiment c'est important, c'est un moyen de transmettre qui est différent de ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, de transmettre des connaissances, de donner des outils et puis aussi de partager des émotions.
D'accord, merci beaucoup.
Alors, dans « Au bord de l'océan, j'ai dessiné, j'ai rêvé », ici en quête de soi, nous suivons les échanges entre deux thérapeutes, Pénélope et Ulyssia. Pénélope est une analyste jungienne, spécialiste du dessin projectif. À travers le cheminement d'Ulyssia vers la quête de soi, elles explorent l'inconscient à l'aide de différents outils.
Alors, dans le quatrième de couverture, il est indiqué que cet essai romancé conviendra à tous ceux qui s'intéressent aux sciences de l'esprit sans connaissance spécifique préalable. Moi, après l'avoir lu, je me suis dit quand même, c'est un livre qu'on pourrait qualifier plutôt de savant, puisque ça fait appel à des concepts, des notions. Donc j'avais envie peut-être qu'on échange sur ce qu'était le message en disant sans connaissance spécifique préalable.
Alors, sans connaissance spécifique préalable, parce que Ulyssia et Pénélope expliquent vraiment qu'est-ce que c'est que l'inconscient, qu'est-ce que c'est que l'inconscient personnel, collectif. Bon, il faut savoir que nous avons une conscience. Alors, Jung, le psychiatre Jung, avait une image, une métaphore, et il disait « vous prenez un iceberg dans l'océan ». Et cet iceberg, les 10% de l'iceberg que l'on voit au-dessus de l'eau représentent notre conscience. Et les 90% restants sont notre inconscient. Et si quelqu'un qui s'intéresse aux sciences de l'esprit cherche à se connaître un petit peu mieux soi-même, il faut qu'il se penche sur les 90% restants. Et en fait, c'est ce que ce livre cherche à démontrer. C'est pour ça que j'ai mis qu'il était accessible à tous, parce que petit à petit, c'est quand même très progressif la connaissance au niveau de ce livre. Petit à petit, petit, on apprend qu'est-ce que c'est que l'inconscient, pourquoi s'y intéresser, que nous avons des souvenirs personnels, qu'on appelle l'inconscient personnel, mais que nous avons aussi un monde d'images, un réservoir de ressources en nous, qui nous vient du plus profond des âges, qu'on appelle l'inconscient collectif. Et tout cela, ben, on l'apprend quand même très très progressivement au fur et à mesure du livre. C'est pour cela que je dis que c'est accessible à tous.
D'accord, merci.
Alors, il est largement question des femmes dans ce livre et j'étais un peu étonnée de lire à la page 75 pour être précise. Donc je cite « En général, la femme a une conscience naturelle des relations interpersonnelles alors que l'homme va se tourner vers des idées objectives ou abstraites. » Donc tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus parce que je ne pensais pas qu'en 2024, on avait encore ce genre de, voilà, d'assertion, quoi, on va dire.
Oui, alors en fait, je parle du féminin et du masculin parce que chaque personne, qu'il soit homme ou femme, effectivement, a un côté masculin et a un côté féminin. Donc c'est vrai que le côté féminin qu'il existe dans la femme ou dans l'homme, ça va être effectivement la capacité de lier, de tisser des liens, que ce soit entre les différentes parties de nous-mêmes ou avec des gens de l'extérieur. Ça va être plutôt un côté féminin.
Alors, mais ça vient d'où de dire que c'est plutôt féminin ?
Alors, c'est Jung, en fait, qui nous l'a appris.
D'accord.
Bon, il fallait bien donner un nom aussi aux choses. On dit bien, le féminin, c'est un archétype. Le masculin, c'est un archétype.
D'accord.
Et donc, il fallait bien donner un nom. C'est vrai qu'on aurait très bien pu dire, pourquoi pas, que le masculin, c'était la capacité de tisser des liens. Mais de toute façon, que ce soit masculin ou féminin, pour moi, c'est à égalité. Si tu veux, il n'y a pas du tout de problème homme-femme. Là, vraiment, je ne parle pas de l'homme et de la femme. Je parle du féminin et du masculin, qu'on soit un homme ou une femme. On a tous un côté un archétype du féminin en nous et tous un archétype du masculin en nous. Voilà.
D'accord.
Simplement, c'est vrai que chez les hommes, ben, on va trouver plus facilement du masculin et ils ont peut-être plus à développer le côté archétype du féminin. Voilà. Alors que nous, les femmes, eh bien, nous avons plus à développer et à rencontrer notre homme intérieur.
D'accord. Oui. Non, mais très bien.
Alors, Une autre question, peut-être aussi, c'est la question, le titre, hein, c'est « Au bord de l'océan, j'ai dessiné, j'ai rêvé ». Donc, dans le livre, on parle des rêves projectifs, hein, et puis l'association de la peinture, donc on peint ce qu'on rêve, on rêve ce qu'on peint. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cet aller-retour entre ces deux arts, je ne sais pas comment les appeler autrement.
Alors tout d'abord, tu parles du titre « Au bord de l'océan, j'ai dessiné et j'ai rêvé ». Alors « Au bord de l'océan », il faut aussi se dire que je n'ai pas choisi ce titre par hasard, bien sûr. L'océan, c'est vraiment un lieu où je me ressource, hein, puisque j'habite au bord de l'océan. Mais l'océan, c'est aussi le symbole de l'inconscient. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre « Au bord de l'océan, au bord de l'inconscient, j'ai dessiné et j'ai rêvé ». Et effectivement, dans le livre, on voit une alternance entre les dessins projectifs et les rêves. Alors, mon héroïne, elle commence par dessiner, par faire du dessin projectif. Donc, le dessin projectif, c'est une façon d'exprimer ses émotions, de donner une image de notre inconscient dans le moment présent. Et elle, quand elle a fini de dessiner, effectivement, cela lui déclenche, cela lui ouvre la porte de son inconscient. Et la nuit, cela lui déclenche une série de rêves, des rêves qui viennent en quelque sorte répondre à ses dessins. Mais que ce soit le dessin projectif ou l'analyse de rêves, ils viennent tous et sont tous une manifestation de notre inconscient. C'est donc une manière de dialoguer avec lui et de mieux se connaître soi-même et dans le plus profond de soi-même. Donc il y a une alternance dans le livre, effectivement, entre le dessin et le rêve. Et finalement, ils sont la manifestation de quelque chose qui est en nous et qui demande à surgir, à émerger. Simplement, ce sont deux approches non pas différentes, mais complémentaires. Et comme on tourne dans une analyse de rêve, on ne va pas interpréter un rêve, on ne va pas donner de solution comme ça. On va chercher avec la personne quel sens cela peut avoir pour elle. On va tourner autour d'un rêve Et c'est pareil avec un dessin projectif qui exprime les émotions. On va tourner autour pour donner le sens. C'est la même approche.
D'accord.
Merci. Et tout le monde est capable de faire du dessin projectif?
C'est ça qui est bien dans cette méthode. Ah bon? Tout le monde est bien. Alors, vous savez, moi...
Tout à fait.
Mais c'est une bonne question. On me la pose souvent. Et en fait, vous savez, moi, je disais, je suis nulle en dessin. Nulle. Et quand j'ai fait du dessin projectif, ben, je me suis rendu compte que le but n'est pas de faire beau. Le but était d'exprimer ses émotions. Mais je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, la peinture se transforme, le dessin se transforme. Et au fur et à mesure que le dessin se transforme, on voit une harmonie qui surgit. Et en même temps que le dessin se transforme, ben, l'émotion se transforme et on aboutit à un certain bien-être, à un apaisement. Mais oui, tout le monde peut faire du dessin projectif, tout le monde peut l'expérimenter. J'anime d'ailleurs des ateliers de dessin projectif de temps en temps. Mais ce qui est bien, c'est que c'est accessible à tous.
On peut rapprocher ça de l'art-thérapie.
On peut rapprocher ça de l'art-thérapie. Donc l'art-thérapie, ça s'apprend. Moi, j'ai appris ça vraiment avec Jung en interprétant les rêves. Et je me suis aperçue qu'en fait, on pouvait interpréter les dessins de la même manière.
D'accord. On va peut-être faire une petite pause. Hein. Donc, Claudine Châtelain a choisi le chant du silence par le duo Youssi. Vous allez reconnaître, c'est sûr.
Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit dans ces images qui montaient auprès comme des graines plantées dans mon sommeil et ce rêve. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir, puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chaud. Cet éclair blanc, j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés. Par le chant du silence, revenez à la raison. Il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une pour faire écho aux abîmes du silence, tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura les.
Du silence.
vous êtes bien sur Jet FM 91.2. Nous sommes en compagnie de Claudine Châtelain pour son livre « Au bord de l'océan, j'ai dessiné et j'ai rêvé, Ulyssia en quête de soi ».
Et si j'ai choisi cette chanson, c'est parce qu'elle évoque un rêve, une vision de non-communication dans la société. Et finalement, cette chanson est très, très actuelle. Et il est vrai que les rêves nous alertent souvent sur une attitude que nous avons de non-communication. Et elle alerte aussi sur une situation collective. Les rêves peuvent être à la fois personnels, mais ils peuvent aussi évoquer ce qui se passe dans notre société. Et c'est ce qui se passe dans cette chanson. Et heureusement, l'analyse jungienne, elle, permet à chacun de tisser des liens dans les différentes facettes de soi-même. Et après, cela nous aide du coup à retisser des liens avec notre environnement.
Alors, ça fait un peu le pont avec la question que j'avais et la question posée précédemment par Martine avant la pause musicale sur la question de l'art-thérapie. Donc, le livre présente, on va dire, des activités artistiques lues à travers une grille de lecture jungienne. Mais en soi, le fait de peindre, de dessiner peut déjà être un type de thérapie. Qu'apporte l'analyse jungienne en plus?
Alors, effectivement, dessiner, ça permet déjà de poser des émotions, etc. Mais l'analyse jungienne, là, fait que le dessin, après, devient un outil thérapeutique, puisque, en fait, ça permet de cerner un petit peu ce qui ne va pas dans le dessin. Et donc, du coup, ce qui ne va pas forcément dans la vie de la personne. Ensuite, une fois qu'on a pu analyser ce qui n'allait pas, pourquoi telle partie du dessin est comme ça, qu'est-ce que ça évoque ce dessin pour la personne, qu'est-ce qu'elle y voit, qu'est-ce qu'elle y projette, c'est pour ça qu'on appelle ça un dessin projectif, qu'est-ce qu'elle y projette d'elle-même, qu'est-ce qu'elle a vécu qui fait que le dessin est comme ça. Donc là, il y a la partie analyse, ce qui nous apporte en plus l'analyse jungienne, mais en plus, il y a un élément qu'on peut apporter de guérison, puisqu'après on peut suggérer à la personne, on peut lui demander, et maintenant qu'on a travaillé tout autour de ce dessin, mais qu'est-ce que tu peux faire? Quel est l'avenir de ce dessin? Et qu'est-ce que tu peux lui apporter? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire maintenant avec ce dessin? Et très souvent, la personne le transforme. Par exemple, elle va peut-être le lisser, faire en sorte qu'il soit plus doux, ou au contraire, le réveiller avec des couleurs. Et là, on se rend compte qu'il y a une transformation. Par exemple, je pense à une personne, à une femme, je peux donner un exemple. Je pense à une personne qui avait vraiment vécu des difficultés très très difficiles avec un père, qui avait eu un mari alcoolique, etc. Et quand elle est venue me voir, elle ne dessinait que des têtes de femmes, il n'y avait pas de corps. Et à la fin des séances, elle dessinait une femme en entier. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse.
Oui, alors moi, il y a encore une phrase qui m'a interpellée. Donc, je cite. Hein. « La sexualité peut être dangereuse si elle est dominante, sans équilibre avec la spiritualité. » Alors, dominant, est-ce que dominante, ce n'est pas domination? Donc, dominante par rapport à quoi? Et qu'est-ce que ça veut dire, équilibre avec la spiritualité? C'est sans amour? C'est quoi?
Non, alors en fait, ce que ça veut dire, Jung disait que c'était préjudiciable pour nous d'avoir une tendance ou un comportement unilatéral, c'est-à-dire penché vers une seule chose. Donc effectivement, si la personne n'est tournée que vers la sexualité ou qu'elle a une tendance vraiment que vers la sexualité, il n'y aura pas forcément assez de spiritualité. Donc en fait, l'approche jungienne souhaite réconcilier les contraires et nous avons tous en nous de la sexualité et de la spiritualité. Simplement, parfois, il se fait que la vie a fait que nous sommes plus tendance spirituelle ou tendance sexuelle. Et en fait, le but de notre inconscient, parce qu'il y a un but positif dans notre inconscient, c'est de faire en sorte que la sexualité et la spiritualité, par exemple, soient complémentaires, qu'il y ait un équilibre, un juste milieu, comme entre le féminin et le masculin. Nous ne sommes pas que féminin ou que masculin, nous sommes les deux, et il y a un juste équilibre à trouver, et c'est la même chose pour la sexualité, la spiritualité, mais aussi l'ombre et la lumière. En fait, l'analyse jungienne, elle a un but, c'est de, que nous trouvions tous, chacun, notre juste milieu entre toutes les tendances.
Mais ça, je comprends bien. En quoi c'est dangereux ?
C'est dangereux d'avoir une attitude unilatérale. Regardez par exemple, une attitude unilatérale, ça peut conduire par exemple au fanatisme.
Non mais là, je parle de la sexualité.
La sexualité, si on ne pratique que la sexualité sexe pour sexe, je pense qu'au bout d'un moment, on a besoin d'autre chose. D'abord, le partenaire peut aussi se lasser. Encore faut-il trouver un partenaire correspondant. Et puis, quand on a une attitude comme ça unilatérale, le destin survient parfois et il y a quelque chose qui fait qu'on est obligé de corriger cette attitude unilatérale. La sexualité, c'était un exemple, effectivement, mais ça peut s'appliquer aussi pour toutes nos tendances uniques, en fait.
D'accord.
Merci beaucoup. Nous voyons bien la question du livre. Alors, effectivement, ce qui vient de se dire, peut-être, parce qu'on pourrait aussi s'interroger, c'est pourquoi l'analyse jungienne. Mais on voit que peut-être le fil conducteur, c'est comment non seulement avoir une quête psycho-spirituelle, mais quelque chose du côté de cet équilibre, on pourrait dire le yin et le yang, quelque chose qui nous permet de fonctionner de manière à l'équilibre.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres messages dans ce livre que tu souhaitais passer, hein, puisqu'effectivement il y a le chemin qui est, raconté, hein, par Ulyssia et Pénélope. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ce livre souhaitait faire partager aux lecteurs et aux lectrices ?
Alors ce livre nous exhorte à avoir davantage confiance en nous. Il nous exhorte vraiment à laisser surgir notre créativité, vraiment, vraiment, à examiner nos rêves, à examiner nos rêves. Il parle également des fleurs de Bach, de la thérapie du docteur Bach, qui est aussi un moyen de gérer ses émotions. Donc, il dit que ce livre, il essaye de nous dire faites-vous confiance. N'hésitez pas à créer, mais la créativité, ce n'est pas seulement dessiner, hein, c'est vraiment donner libre cours à soi, à sa créativité. Il dit, n'ayez pas peur de vous découvrir, au-delà des choses superficielles. Vraiment, chacun a sa vérité, et c'est à chacun de trouver sa vérité au plus profond de soi.
Alors, à plusieurs reprises dans le livre, dans les entretiens, les échanges, il est question de l'emprise de la mère. Et comme un empêchement, en fait, pour justement accéder à l'inconscient, enfin pour se réaliser finalement, créer, c'est spécifique au personnage de Lucia ou c'est, on va dire, assez général.
C'est assez général. En fait, nous avons tous ce que Jung a appelé les complexes. Les complexes, c'est une forme de comportement. Vous savez, moi, j'ai une amie qui me dit « Ça y est, on a appuyé sur le bouton rouge et elle se met en colère. » En fait, c'est comme un fonctionnement que nous avons qui est complètement inconscient et qui se développe à notre insu. Et donc, on appelle l'emprise de la mère, ça s'appelle dans le langage jungien le complexe maternel, mais nous avons aussi un complexe paternel.
Oui. Non, mais la mère revient quand même assez souvent dans le livre.
Bien sûr, parce qu'il s'agit d'une femme. Il s'agit d'une femme, et effectivement, l'emprise de la mère est très importante. Et quand on va voir un thérapeute, malheureusement, ou heureusement, on peut projeter cette image de la mère que nous avons eue sur son thérapeute ou sa thérapeute. Mais ça fait partie de la thérapie, c'est ce qu'on appelle le transfert. Et le fait de projeter la mère sur le thérapeute va justement progressivement aider à enlever ce complexe maternel, cette emprise de la mère.
Quelle que soit la mère qu'on a pu avoir.
Oui, quelle que soit la mère qu'on a pu avoir.
Je ne sais pas, toutes les mères ne se comportent pas de la même façon.
Non, heureusement. Mais ça peut prendre aussi un certain nombre d'années. Ça peut prendre du temps. Et ça, il faut l'accepter. faut l'accepter. Mmh. Et puis, la mer, l'emprise de la mer, très souvent, quand il y a eu des problèmes avec la mer, on appelle ça introjecté, on l'a intériorisé en nous, et souvent, nous devenons une mauvaise mère pour nous-mêmes. Et en fait, dans la thérapie, ou par le dessin, par plein d'autres façons aussi, eh bien, il nous faut apprendre, et c'est vrai que ça peut être un message du livre aussi, il nous faut apprendre à devenir une bonne mère pour nous-mêmes.
Alors, une dernière question. Je vais en faire deux dans la même, je vais me faire disputer, mais... deux choses, c'est tout à l'heure... Tu disais par rapport au dessin projectif, finalement, tout le monde peut dessiner. Moi, je pense à ces gens qui disent qu'ils ne rêvent pas. Donc, peut-être là-dessus. Et puis aussi, peut-être ton actualité, hein, si tu as des choses à rajouter. Voilà. Donc, j'ai contourné la règle.
Non, mais parce qu'on va bientôt arriver à la fin.
Ouais.
Alors, les gens qui disent qu'ils ne rêvent pas, ben oui, c'est faux. Ils rêvent, mais ils ne s'en souviennent pas. Et pourquoi ne s'en souviennent-ils pas ? Il y a plusieurs raisons. Eh bien, déjà, ils ne sont pas prêts à écouter les messages de leur inconscient. Il faut montrer à l'inconscient qu'on est prêt à dialoguer avec lui, qu'on est prêt à l'écouter. Il y a plusieurs moyens de le montrer. Soit ils ont une actualité extravertie très très forte, ils sont très très occupés par leurs activités et du coup ils n'arrivent pas à être un peu plus introvertis. Et là aussi c'est une question d'équilibre. Nous sommes à la fois extravertis, introvertis et là aussi il faut trouver le juste équilibre. Donc quand on a beaucoup d'activités à l'extérieur, ce serait bien de pouvoir de temps en temps prendre un moment pour soi. Un peu plus régulièrement. Et à ce moment-là, je pense que les rêves là peuvent arriver et peuvent émerger. Voilà.
Et sur ton actualité ?
Alors, mon actualité, c'est que j'ai écrit un deuxième livre. Et cette fois-ci, c'est une autre forme littéraire. Ce sera un recueil de peintures que j'ai faites moi-même, des peintures projectives ou intuitives. On peut aussi les appeler intuitives. Et puis, des poèmes que j'ai créés en reflet de ces peintures. Et donc, ça va paraître très bien ce mois-ci aux éditions LC.
D'accord. Merci
très bien.
Beaucoup.
Alors, avant de nous quitter, eh bien, nous vous souhaitons un été joyeux et plein de lectures, évidemment, avec une étape à Pornic pour le deuxième salon du livre qui aura lieu les 30 et 31 juillet. Nous nous retrouvons début octobre. Pour finir, Claudine Châtelain a choisi « Hymne à la résilience », c'est bien ça le titre.
Oui.
Par Marmie Curie.
Curie,
pardon.
Une championne de slam 2023.
C'est ce que j'ai vu, ouais.
Marche. À l'effet claque tes souliers. D'ici jusqu'à l'immensité. Et puis faire résonner ta voix. Plus loin encore. Et par-delà, parce que tu comptes. Toi, 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 tu comptes. Tu fais partie de l'équation. Mesure ton poids, affirme-le. Sache combien tu es précieux, estime-toi. Et prends la route, omets la peur, omets les doutes. Arpente la vie. Avance, 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 avance. Arpente la vie. La vie s'invente avec ardeur, impétueuse et évidente, étreint-la sans pudeur. Laisse-la t'emmener, te traverser. T'aimer, te tordre, te bousculer, te remettre en désordre. Ne te range pas, jamais. Explore chaque pan de ta singularité. Ne masque rien de ton essence, honore le monde de ta présence. Sois ton chaos, incarne-le, n'étouffe aucun de tes enjeux. Et tombe. Le ventre à terre mord la poussière et brave tes ombres. Frappe, crie, pleure, rage. Maudit le ciel et ses foutus apprentissages. Rassemble-toi, unis tes forces. L'obstacle vient pour consolider ton écorce. Il vient cogner tes résistances et te forger une expérience. Fais ta cuirasse, réarme-toi, mets-toi debout, relève-toi. Avance, 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 avance. Relève-toi et marche. Explore l'infini des possibles. Pas de césure, pas de cession. Amorce la grande ascension. Ne cherche pas le bon chemin. Tu es le seul chemin. Façonne-le à ton image, invente ton propre voyage, vis tes légendes et tes récits, prends des détours, des raccourcis et perds-toi. Au Autorise-toi à faire parfois les mauvais choix. Accueille tes moments d'égarement. Accepte ton aveuglement. Ne tiens rien pour définitif, tout se transforme. Prends des sentiers alternatifs et multiformes. Tu comprendras en vérité qu'aucun chemin n'est tout tracé. Crée ton histoire à chaque pas, improvise et invente-toi. Avance, 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 avance. Invente-toi et danse.